question essentielle qui s'adresse aux écrivains, aux artistes japonais, et donc ils ont le souci qu'elle s'adresse également à nous en tant qu'individus, en tant qu'écrivains, en tant qu'artistes, comme s'il y avait véritablement un avant et un après Fukushima. Boel disait très bien dans l'entretien que j'ai fait avec lui, il disait « mais il y a eu Fukushima ». Voilà. Parce que lui, depuis des années, il a cette particularité d'écrire des livres pour dire sans cesse qu'il va cesser d'écrire. Il s'était résolu à cesser d'écrire, mais l'événement l'a interpellé avec une telle force qu'il s'est remis au roman et à nouveau dans une perspective différente. Donc il y a une vraie interpellation, disons, et c'est cette interpellation-là dont j'ai voulu me faire l'écho dans ces textes.
Bonjour Michaël Ferrier.
Bonjour.
Et bienvenue à la Grande Table.
Merci.
Vous êtes professeur de littérature au Japon, vous êtes écrivain, on vous doit en 2012, un récit d'un désastre intitulé Fukushima qui a paru aux éditions Gallimard, un texte qui va être adapté au théâtre ce soir même dans le cadre du festival Le Boulot, la Vigne et le Cerisier qui sera jusqu'au 15 mars à la Maison de l'Arbre à Montreuil, une représentation qui sera suivie d'un débat en votre présence, d'où votre présence à Paris et dans cette émission aujourd'hui. On entendait là la voix de Philippe Forest, l'écrivain, il y a pile un an ici à la Grande Table, à propos de son livre Retour à Tokyo. Il parlait d'un avant et d'un après et d'une nécessaire interpellation. Au mot avant et au mot après, vous préférez le terme de avec Fukushima. Pourquoi donc ?
Oui, alors Philippe Forest, avec son intelligence habituelle, a bien ciblé le problème. Comment parler de Fukushima ? Je n'ai rien contre le mot « après ». C'est une préposition qui existe dans la langue française, donc on peut tout à fait s'en servir. D'autant plus si on entend par là qu'il y a eu un événement nommé aujourd'hui en France et ailleurs Fukushima, et que cet événement trace une ligne de rupture. Donc là, effectivement, il y a un avant et un après Fukushima. Et Oe Kanzaburo, pour reprendre l'exemple de Philippe Forest, effectivement s'est remis à écrire parce qu'il y a eu Fukushima. Donc, de ce point de vue-là, après, ça ne me dérange pas. En revanche, si le mot « après » sert à mettre, si vous voulez, une sorte de nuage ou de flou sur l'événement en pensant qu'il est derrière nous, ça, non, parce que la caractéristique d'une catastrophe comme Fukushima, notamment dans son versant nucléaire, c'est que cette catastrophe n'est pas terminée. Elle dure. C'est une catastrophe continuée, d'une certaine manière, une catastrophe peut-être virtuellement interminable, étant donné les échelles de temps parfois extrêmement difficiles à appréhender qu'engage le nucléaire.
Vous vivez donc au Japon, vous étiez au Japon à Tokyo pendant les trois événements, donc d'abord le tremblement de terre, puis le tsunami, suivi donc de cette catastrophe nucléaire. Aujourd'hui, Michaël Ferrier, vous vivez avec, ça veut dire quoi ?
Mais on vit avec, c'est-à-dire on vit avec dans tous les aspects de la vie quotidienne. Ça ne veut pas dire forcément qu'on y pense à chaque instant, parce qu'on s'habitue aussi même à l'inhabituel. Mais on vit avec, par exemple, beaucoup de mers, parce qu'on sait que la radioactivité touche vraiment les squelettes des enfants de manière encore plus cruelle que ceux des adultes. Beaucoup de mères, par exemple, se demandent comment nourrir leur enfant. Est-ce qu'on ne va pas ingérer des particules radioactives, ou même dans une simple promenade dans certains endroits où il y a de l'eau stagnante, par exemple, ou dans... Bref, il y a toute une... Sur la contamination alimentaire, par exemple, il y a toute une... C'est pas une psychose, c'est pas une angoisse, c'est pas aussi spectaculaire que ça, mais il y a, disons, une espèce d'inquiétude diffuse, voilà. Une inquiétude diffuse dans la population, qui ne se traduit pas forcément en mots. Hein. On n'est pas forcément dans une civilisation où on va dire, on va expliquer tout ce qui vous passe par la tête ou par le corps, dans les sentiments ou dans les réflexions, mais qui est là, qui est bien présente, qui est prégnante, je dirais. Et évidemment, quand j'utilise le mot « diffuse », c'est une allusion très claire aux effets même de la radioactivité dans son mode de propagation.
Dans les informations qui nous parviennent, on lit, alors d'abord, que la Terre a tremblé à nouveau le 22 février dernier, avec une magnitude de plus de 6,9 même sur l'échelle de Richter. Quand on lit votre Fukushima, récit d'un désastre, on sait ce que ça veut dire, 6,9, et vous le savez plus que quiconque, parce que c'est une échelle logarithmique et non linéaire, donc la puissance est déterminante. Vous dites aussi à combien de tremblements vous avez vécu dans les jours et dans les mois qui ont suivi le séisme du 11 mars de 2011. On entend ça, on entend que la Terre peut trembler à nouveau au Japon. On entend aussi que le Japon s'obstine à vouloir rebrancher ses réacteurs nucléaires, qu'une nouvelle fuite a été détectée le 22 février dernier. Est-ce que chez vous, au Japon, on parle de tout ça? Et quand je dis « on », c'est pas seulement dans la population, c'est aussi est-ce que les autorités publiques vous parlent ou est-ce que vous avez le sentiment que les choses vous sont cachées?
Alors, on en parle... Évidemment, on en parle dans les médias, on en parle dans les conversations quotidiennes. Maintenant, et la façon dont on en parle, c'est là le problème. C'est-à-dire, par exemple, les autorités mettent l'accent sur une possible reconstruction de toute cette zone sinistrée, sur remettre les populations, les faire revenir, le retour des populations dans les zones contaminées, sur la décontamination, sur le nettoyage. Bref, il y a une espèce d'insistance assez lourde et un peu suspecte, évidemment, sur le fait qu'on pourrait revivre comme avant, ou presque, et évidemment tout est dans le presque, dans les zones contaminées. Donc il y a effectivement, on en parle, je dirais, mais on n'en parle peut-être pas. Le fait de parler de quelque chose ne veut pas dire qu'on en parle avec justesse. Donc on en parle, oui, en ce qui concerne en tout cas les discours officiels, et une grande part des discours médiatiques aussi, parce que la presse au Japon se fait souvent l'écho des propos du gouvernement. Je dirais que quand même, il y a une grande part de fumisterie, c'est un peu raide comme expression, mais il y a une grande part de fumée en tout cas, il y a beaucoup de nuages. Quand par exemple le Premier ministre Abe annonce de manière extraordinairement lyrique les Jeux Olympiques attribués à la ville de Tokyo pour 2020, en disant les enfants de Fukushima regardent le ciel, alors je ne sais plus quelle expression pseudo-poétique il avait utilisée, c'est assez abject quand même. Là, on est dans un mensonge d'État en disant qu'il n'y a plus de problème à Fukushima et que finalement, on va passer à autre chose grâce aux Jeux Olympiques. C'est à la fois un mensonge, c'est insultant et c'est dérisoire. Mais il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Le côté volontariste, faussement optimiste, c'est quelque chose qui effectivement vient du sommet de l'État, se propage aussi chez beaucoup de groupes industriels, et on a ce discours-là qui est assez insupportable et qui est assez omniprésent, oui.
の富士山が大変だ。もっと大変だよ。あんた知らないの？発電所が爆発したんだよ、原子力の。あの発電所の原子炉は6つある。それはみんな次から次へと爆発を起こしてるんだ。
Michael Ferrier, dans votre formidable récit, Fukushima, récit d'un désastre, paru en 2012, je le rappelais, vous évoquez ce film de Akira Kurosawa de 1990, Rêve. C'est un film constitué de plusieurs tableaux. Et dans ce film Rêve, il y a un tableau que vous jugez étrangement prémonitoire, comme le sont toutes les grandes œuvres. Vous racontez que dans cet épisode, 6 réacteurs nucléaires ont explosé suite à un tremblement de terre et que les gens fuient dans tous les sens. J'aimerais faire un retour pendant quelques minutes avec vous sur ce triple événement que vous avez vécu et que vous avez raconté, parce qu'il dit beaucoup de la façon dont on peut en parler aujourd'hui. D'autant que vous êtes ici en France avec deux textes que vous avez écrits, donc maintenant, 4 ans après, ou 4 ans avec, un qui paraît dans la revue L'Infini, que vous avez précisément intitulé Avec Fukushima, et l'autre qui paraît dans la revue Communication. Et dans votre article intitulé Avec Fukushima, vous dites que vous êtes aujourd'hui hanté par une question: pourquoi cette catastrophe a eu lieu? Autrement dit, pourquoi on a laissé arriver la catastrophe sans l'avoir vue venir? Et pourquoi on n'arrive pas à la penser comme telle? Vous écrivez même que vous avez l'impression que vous jugez agaçante autant que désespérante, que ça n'a pas changé grand-chose. Pourquoi dites-vous ça ?
Alors, c'est un texte, effectivement, en fait, c'est un texte que j'ai prononcé à... lors d'un colloque que nous avons organisé avec Christian Doumé, qui s'appelait « Avec Fukushima ». Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a une difficulté propre à parler de Fukushima. Fukushima, c'est une triple catastrophe, vous l'avez dit, qui combine des aspects très classiques, le séisme, le tsunami, ça, ce sont des catastrophes, je dirais, classiques, avec tremblement de terre, très spectaculaire, avec exode de population, le plus gros, le plus grand exode de population quand même au Japon depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc des aspects classiques et en même temps des aspects sinon inouïs, du moins très rarissimes, pour l'instant en tout cas. Seul Tchernobyl finalement avait donné un exemple de cette contamination nucléaire avant Fukushima, à ce niveau-là en tout cas. Et ce dernier volet... fait qu'on est face à un nouveau type de catastrophe, j'appelle ça les catastrophes furtives ou les catastrophes discrètes, qui sont banales finalement et qui sont terribles dans leur banalité même, qu'on a du mal à appréhender par les sens, sentir la radioactivité, la goûter, l'entendre, c'est pas évident sans être appareillé de diverses manières. Donc on a du mal à l'appréhender par les sens et aussi, et donc je dirais, par la perception autant que par l'intellection. On a du mal à comprendre ce qui se passe et comment l'appréhender. Ça, c'est un véritable problème. Nos cadres épistémologiques, c'est-à-dire la manière dont nous organisons nos connaissances sur un événement pour à la fois le sentir et l'analyser, nos cadres épistémologiques ne sont pas configurés pour ce genre d'événement. Donc là, il y a tout un travail, et vous voyez que c'est un travail... de visibilité, comment rendre visible cette catastrophe. Et ce travail-là est autant poétique au sens large, c'est-à-dire esthétique d'une certaine manière. C'est autant une tâche d'artiste, d'écrivain, d'artiste visuel, de designer éventuellement, qu'une tâche scientifique. Comment des médecins, par exemple, peuvent visualiser le processus des petites doses de radioactivité qui vous entrent dans le corps régulièrement et qui vont finir par provoquer un cancer. Donc c'est une tâche scientifique, médicale, artistique, c'est une tâche médiatique. Comment dans un journal, comment sur une radio, comment à la télévision on parle de cela, comment dans une société aussi qui est très axée sur l'image, sur le pouvoir des images, sur le buzz parfois, on dit, mais c'est assez vrai, comment parler donc de ces catastrophes discrètes, ces catastrophes...
Enfin, discrète.
Oui, alors c'est à dessein que j'utilise le mot discrète parce que ce sont des catastrophes dont les effets sont dévastateurs, mais que finalement, on a du mal à voir arriver et on a du mal à appréhender au moment même où elles se produisent.
Et puis, c'est l'appellation même, ensuite, qui est interrogée ou qui est à interroger.
Voilà.
En particulier, ce terme même de Fukushima, qui n'est pas forcément approprié. Vous citez, Michael Ferrier, une sociologue, Mori Shikako, qui a écrit une tribune traduite dans Le Monde en mars 2012. Il se trouve qu'au Japon, on ne parle pas de Fukushima. Alors qu'ici, on parle de Fukushima. Au Japon, on parle du 11 mars.
Oui, c'était un texte très stimulant, très, très beau en plus, de Chikako Mori, qui est une sociologue japonaise et qui a étudié à l'EHSS, à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, donc qui a été formée au Japon et en France, parfaitement francophone. Donc on a un bel exemple, si vous voulez, de ce que nous pouvons, lorsque nous le voulons en France, aider à produire des œuvres intellectuelles fortes. Et effectivement, dans ce texte, qui portait un titre « De quoi Fukushima est-il le nom ?», elle notait ce fait que personne n'avait noté avant elle, qui est qu'au Japon, on n'utilise pas le mot Fukushima. Fukushima au Japon, c'est la ville et la région de Fukushima. Mais quand on parle de ce que nous appelons Fukushima, la triple catastrophe, on parle du 11 mars. Et même San Ichiichi.
Donc on ne devrait pas dire après Fukushima, on devrait dire aujourd'hui avec le 11 mars.
Avec le 11 mars.
Mais voilà. Vous avez bien entendu, Michael Ferrier, que le 11 mars, c'est aussi les attentats de Madrid, que le 11 mars, c'est aussi les attentats de Toulouse.
Tout à fait.
Donc le 11 mars, maintenant, il signifie beaucoup d'événements tragiques.
Exactement. Mais on peut continuer à utiliser Fukushima, hein. c'est pas tellement le problème. On peut parler comme on veut, simplement il s'agit de savoir de quoi nous parlons.
Ce que recouvre.
Voilà, ce que recouvre.
Pardon.
C'est, tout à l'heure, je disais ça pour la préposition après. C'est pareil pour le mot Fukushima. Si Fukushima est une manière d'exotiser la catastrophe, avec, en disant finalement.
C'est là-bas.
La catastrophe, c'est là-bas, c'est toujours pour les autres. Dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, nous sommes tous habitants de Fukushima. Mais si Fukushima, effectivement, on l'utilise par commodité, en sachant très bien de quoi on parle lorsqu'on parle de cela, alors c'est différent, il y a des contextes différents.
C'est peut-être pour cette raison que la metteur en scène Brigitte Mounier a voulu adapter votre texte, Michaël Ferrier, dans cette idée que nous sommes tous concernés, et peut-être aussi avec cette idée de rendre visible, dont vous parliez, à la fois cette catastrophe que vous jugez discrète, et vous l'avez bien expliqué, mais rendre visible aussi votre texte qui est une petite merveille. Écoutez Brigitte Mounier au micro de Jeanne Aléos.
Moi j'habite à 5 km de la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, à Gravelines, donc c'est essentiel pour moi, c'est une crise de monter ce texte, hein. ça me permet de continuer de vivre, hein. Ça donne du sens. Et ça a vraiment été un choc littéraire et un choc politique. Le langage d'une beauté, de la richesse du vocabulaire, les sensations, les perceptions, je ne sais pas combien de sens a cet homme, mais plus de 5 certainement pour écrire ça. Et il a une perception complètement écologique de la vie et du monde, et il ramène l'essentiel à la nature. Et ça m'a fait beaucoup penser au discours du chef Seattle, hein, qui dit « quand on crache sur la terre, on crache sur soi-même. Quand l'homme crache sur la terre, il crache sur soi-même. » Et c'est ça que son livre dit. Et le rapport sensitif qu'il a à la nature, l'homme, la qualité de vie de l'homme découlant du respect qu'il a pour la nature, et ça traverse le livre comme ça, de façon splendide et évidente. Et je n'ai pas changé un mot au texte, j'ai simplement fait du montage, hein. J'ai travaillé avec les ciseaux, j'ai découpé et assemblé différemment. Néanmoins, j'ai respecté la dramaturgie des 3 étapes, des 3 moments qui sont un peu comme un haïku, donc la terre pour le tremblement de terre, l'eau pour le tsunami et le ciel pour les radiations. Et voilà, la mise en scène était faite. Je crois que le théâtre est né de ça, hein, de la prise de parole politique. Il est né, c'est son essence même au théâtre. Donc on ne peut pas passer à côté.
Alors combien de sens avez-vous, Michaël Ferrier, puisque Brigitte Mounier considère que vous avez plus de 5 sens pour écrire un texte comme le vôtre?
Oui, je n'ai pas encore rencontré Brigitte Mounier. Elle dit des choses très agréables sur mon compte, je la remercie. Elle dit quand même quelque chose d'important, parce qu'elle habite juste à côté d'une centrale. Ça, c'est important. Vous avez parlé tout à l'heure de cette série de spectacles et de débats qui va avoir lieu jusqu'à dimanche à la Maison de l'Arbre à Montreuil. Le titre, c'est Tchernobyl, Fukushima, le blayé. Et ça, c'est une très bonne manière de poser le problème. C'est-à-dire que Fukushima n'est pas un problème japonais, c'est un problème international. Et la question du nucléaire n'est pas ou pas seulement un problème national. C'est vraiment il faut relier toutes ces problématiques, celle de Tchernobyl, celle de Fukushima et celle du blayé en France ou de toute autre centrale sur le territoire français. J'insiste beaucoup sur cette dimension internationale parce qu'il me semble qu'elle est souvent passée un peu sous silence. Le nucléaire pose de manière très, très claire et très cruelle le problème des relations internationales.
Dans votre récit, Fukushima, récit d'un désastre, Michaël Ferrier, vous posiez déjà cette question de comment on écrit. D'ailleurs, comment écrire ce livre-là, puisque vous avez vécu ces événements, que vous êtes allé à la rencontre des Japonais qui vivaient le même événement que vous, et qu'il a fallu en restituer le sens profond et le sens en surface, c'est-à-dire ce que vous voyez. Vous dites que vous avez eu envie d'écrire par îlot ou par estuaire, par petites notes déferlantes, pointues, blanches ou noires, tout à la fois sauvages et soignées. Aujourd'hui, est-ce que vous écrivez de la même façon, vous qui dites que c'est un événement qui devrait remettre en cause toute une série de mode de vie, de mode de pensée. Est-ce que de ce point de vue-là, de votre travail, vous êtes aussi enseignant d'ailleurs, de votre travail d'enseignant, de votre travail d'écrivain, ça a changé quelque chose ?
Je ne sais pas si ça a changé fondamentalement quelque chose dans ma manière d'écrire, mais ce dont je suis à peu près certain, c'est que ça a accentué certaines tendances que j'avais et que Fukushima a accentué. Par exemple, j'ai toujours voulu faire d'un texte quelque chose de polyphonique. Je pense que l'écriture, ça ne s'adresse pas seulement, et peut-être même pas principalement à la vue, même si on lit avec les yeux, que c'est aussi peut-être avant tout une question d'oreille, qu'on peut par l'écriture, c'est la magie de cet art, on peut par l'écriture toucher les cinq sens, je ne sais pas s'il y en a un sixième, mais comme le disait Brigitte Mounier, mais en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire dans les livre précédent, c'est ce que j'essaierai de faire dans les suivants, mais c'est vrai que là, pour le coup, Fukushima, parce que c'était un événement, parce que c'est un événement exceptionnel, parce qu'il engage le corps dans son entier, et bien évidemment, c'était le sujet le plus porteur pour moi de ce point de vue.
Dans ce livre également, vous êtes un peu critique avec, on va le dire comme ça, avec les Français qui se sont empressés de partir, de fuir, même si vous ne les jugez pas, chacun a ses raisons, mais quand même, vous trouvez que certains d'entre eux sont partis un peu vite et vous n'avez jamais éprouvé l'envie de partir. On va parler de la France dans cette deuxième partie de la Grande Table. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes senti très japonais ? Est-ce qu'à un autre moment vous vous êtes senti très français ? Est-ce que vous vous sentez l'un et l'autre en permanence ?
Complètement. D'abord, je n'ai pas été si critique que ça. Je dis que certains sont partis, c'est le droit de chacun de prendre la poudre d'escampette. En revanche, il y en a certains qui auraient dû rester, chefs d'entreprise ou responsables, ou même qui ont demandé à leurs employés de rester, qui eux se sont barrés.
C'est ça, bien sûr.
Alors là, oui, là je suis critique, d'ailleurs plus ironique que critique, parce que finalement c'est de la peur, c'est tout. Hein. Pour le reste, est-ce que je suis français, est-ce que je suis japonais, je suis les deux, je suis encore bien d'autres choses. Je ne me définis pas tellement, ou pas seulement en tout cas, par la nationalité. Je crois que c'est un travers assez répandu aujourd'hui contre lequel j'essaye de lutter. Je suis un être humain comme tout le monde, avec ses qualités, ses défauts. Je ne pense pas que la nationalité soit le premier critère pour juger ni d'un être humain, ni d'une œuvre d'art.
Merci Michael Ferrier, on va terminer cette rencontre en musique grâce à vous d'ailleurs, puisqu'il est question dans Fukushima, récit d'un désastre, d'un passage musical qui vous a aidé, qui est un passage final, ça tombe bien, Così fan tutte, Mozart. C'est en écoutant la fin de Così fan tutte que j'ai compris qu'il ne fallait surtout pas partir. Heureux celui qui prend tout par le bon côté et qui laisse la raison le guider à travers les événements et les épreuves. Merci Michael Ferrier. Je rappelle Fukushima, récit d'un désastre édité chez Gallimard. Les deux textes que vous avez écrits avec Fukushima dans la revue L'Infini, de la catastrophe considérée comme un des beaux-arts dans la revue Communication. Et ce soir et demain à Montreuil, à 21h, se jouera Fukushima, terre des cerisier adapté de votre livre, suivi ce soir d'un débat avec vous à 22h, et tout ça c'est dans le cadre du festival Le Boulot, la vigne et le cerisier, Tchernobyl, le Blayais, Fukushima, c'est jusqu'à dimanche à la Maison de l'Arbre à Montreuil.